Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de La Petite Bête sur le fil. Ce soir, La Petite Bête sur le fil se préoccupera des droits de l'enfant, discutera autour de ces fameux droits de l'enfant, où il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, nous échangerons durant cette émission avec Hélène Henry de la Ligue des Droits de l'Homme. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et nous échangerons également avec Daniel Granchet du CFED d'Evreux, de l'Eure, pardon. Oui. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, cette émission vous est proposée, préparée, compactée, projetée jusqu'à vos oreilles par notre ami Abraham Hippopotame à la technique.
Bonsoir à vous.
Bonsoir. Et également par Odette Crevette qui a été, arpenter les rues avec son micro baladeur.
Bonsoir.
Bonsoir. Les questions que nous nous poserons ce soir, eh bien, ça va être où en sont les droits des enfants? Y a-t-il des inégalités à travers le monde? Quels sont les outils et les droits pour que nos enfants deviennent sereinement des adultes? Et puis, y aura-t-il des raviolis mardi à la cantine? Au sommaire de cette émission, une découpe que nous avons travaillée avec Hélène Henry. D'ailleurs, merci à vous de m'avoir aidé à préparer cette émission parce que souvent nous préparons nous-mêmes les émissions et nous les imposons aux invités. Vous avez été au-delà de répondre juste à notre invitation. Vous avez participé à la création de cette émission, finalement.
Oui, d'accord.
Mais non, on a bien vu que vous maîtrisiez bien le sujet et que vous nous donniez plein de pistes à travailler.
Bon.
Eh bien, décidément. La découpe de cette émission se fera de la façon suivante. Nous présenterons en un premier temps la Ligue des droits de l'homme et le CFED. Nous parlerons des droits de l'enfant en France. Est-ce qu'il y a des avancées? Ou au contraire, est-ce que ça va moins bien? Nous parlerons également des droits de base de ces droits de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire internationalement ces droits de l'enfant? Nous parlerons également des circonstances de la mise en place de ces droits. Quels sont les freins, quelles sont les difficultés de pouvoir mettre en place toutes ces choses. Nous parlerons bien entendu de notre société en général. Nous parlerons également des enfants étrangers qui sont une particularité. Non, ces enfants ne sont pas une particularité, c'est plutôt la façon dont nous les accueillons qui relève d'une certaine particularité. Nous parlerons également répression et loi répressive parce que ça a été dans le thème de l'actualité ces dernières années. Lors de la préparation de cette émission-là, nous avions eu un échange intéressant d'ailleurs là-dessus avec vous, Hélène Henry. Nous parlerons de quoi encore? De tous les sujets qui tourneront autour de ces fameux droits de l'enfant. Cette émission sera agrémentée des reportages signés Odette Crevette et Mado Bulot. Voilà, elles ont été promenées et interrogées. Elles ont été se promener puis interroger les passants sur diverses thématiques. Vous aurez l'occasion d'en écouter régulièrement. Il y aura également une rencontre avec Michael Vin, vice-président des Franca, que nous avons eu au téléphone cet après-midi, avec qui nous avons échangé également sur la place des enfants dans notre société. Voilà, c'est à peu près le tour. Eh bien non, c'est pas fini. Les auditeurs, vous pourrez nous appeler pour réagir avec nous sur cette émission, poser des questions, participer au débat, nous contredire si vous le souhaitez. Enfin voilà, participer très clairement à cette émission. Laissez-nous un petit peu commencer cette émission, qu'on pose quelques bases et puis nous vous inviterons, à partir de 21h30, 21h45, quelque chose comme ça, à venir jouer à la radio avec nous. Voilà, si ça vous convient.
L'enfant, c'est fait pour jouer, pour s'amuser, pour profiter, pour devenir adulte et pour vivre comme un enfant. Comme un enfant normal, enfin comme nous. Enfin, d'autres enfants. Ah, t'es mon pote, toi.
Voilà, c'était un court extrait d'une bande-son d'un travail fait par l'UNICEF qui avait auditionné des enfants sur un tas de sujets, d'ailleurs. Et là, c'était en particulier sur à quoi servait un enfant. Voilà, c'est mignon, finalement, d'entendre la voix des enfants. On va va commencer cette émission en présentant un petit peu les structures que vous représentez, à savoir la Ligue des droits de l'homme et le CEFED. Hélène Henry, la Ligue des droits de l'homme est connue internationalement, voilà. Mais quelles sont ses missions, ses objectifs? Et localement, qu'est-ce que la Ligue des droits de l'homme?
Alors, la Ligue des droits de l'homme, d'abord, a été créée au moment de l'affaire Dreyfus, pour défendre et Dreyfus et Émile Zola, qui avait défendu Dreyfus, en 1898, donc c'est une très vieille dame, comme on dit. Et depuis cette époque, elle lutte corps et âme pour défendre les droits, au départ, qui étaient inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et depuis la nouvelle Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle continue à lutter pour défendre tous les droits, lutter contre toute forme de discrimination, défendre autant les droits économiques et sociaux que les droits culturels et civiques. Voilà, toutes les formes de droits, lutter contre toutes les formes d'injustice et de discrimination. Voilà.
Quelle est la différence principale avec nos amis et vos amis d'Amnesty International, que nous recevons régulièrement à l'antenne d'ailleurs?
Alors, la Ligue des droits de l'homme, c'est apolitique, mais elle, y en a une donc en France, et elle a créé ensuite la Fédération internationale des droits de l'homme qui couvre tous les pays. Et je dirais qu'Amnesty se centre surtout sur les pétitions pour défendre des cas particuliers. Nous, c'est différent. On est surtout témoin de tout ce qui ne va pas. Et en principe, on en informe les personnes et on agit auprès des gouvernements par des pétitions aussi, mais par des actions, des manifestations et des actions sur le terrain, quoi. Beaucoup de choses. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Amnesty se préoccupe surtout, je dirais, des pays étrangers, des personnes persécutées, torturées, prisonnières, risquant de mourir, quoi, voilà, d'être assassinées. Nous, c'est plus tous les droits, voilà, tous. Et c'est très, très vaste, on est. Donc, c'est énorme. On a trop à faire, voilà.
Daniel Granchet.
Oui, j'allais dire justement qu'Amnesty, il me semblait que c'était plus ciblé sur. Les tortures, voilà, les gens persécutés, privés de leur liberté d'expression ou de pouvoir se déplacer, etc. Par rapport à la Ligue des droits de l'homme, où c'est ça part de la Déclaration universelle
tous les
droits de l'homme.
Tous.
Oui.
Voilà.
Localement, ça se traduit. Est-ce qu'il y a des préoccupations de la Ligue des droits de l'homme localement?
Sur le plan de la France, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont communes à toute la France. Donc, sur le plan local, le problème, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, en commun avec le CEFED, là, on est en train de préparer toute une action contre la montée inquiétante du rejet des personnes étrangères. Et donc, on fait toute une action sur le vivre ensemble dans notre pluralité. Voilà. Donc là, on va en parler un petit peu plus tard. D'ailleurs, on a un programme assez important et on va beaucoup s'investir dans cette optique. Voilà.
Très bien. Daniel Granchet sur le CEFED. Qui est le CEFED? Quel est le CEFED? Quelles sont ses missions?
Le CEFED est une association, loi 1901, et qui veut dire en fait collectif étranger français pour l'égalité des droits. Et bon, en fait, on est loin de ça, mais c'est ce qu'on souhaite. Et les missions, en fait, c'est surtout pour, ce sont surtout des missions d'accueil du demandeur d'asile et de la personne qui veut demander le séjour. Des migrants arrivent en France. Il y en a qui demandent l'asile, qui ont dû fuir pour des raisons de guerre ou de persécution, oui, quelle qu'elle soit, parce que c'est pas forcément une situation de guerre. Et d'autres personnes viennent pour fuir la misère et demandent à rester en France. Donc il y a un accompagnement, des conseils qui leur sont donnés, et voilà.
Nous, maintenant que les présentations sont faites, et c'est plutôt une bonne chose, attaquons-nous plus particulièrement aux droits des enfants et commençons droits des enfants en France. Nous élargirons nos discussions tout au long de cette émission, mais comme point de départ, j'aurais bien aimé savoir, quand on parle du droit des enfants, qu'est-ce qu'on entend précisément par le droit des enfants ici en France ?
Bon, alors, je dirais que quand on parle des droits des enfants, on s'appuie sur la Convention internationale des droits de l'enfant qui date du 20 novembre 1989, mais il y a eu des déclarations défense des enfants depuis 1919, 1924, 1959, mais c'est cette convention-là qui, en principe, devrait être appliquée par tous les pays, quoique certains ne l'aient pas signée, comme les États-Unis.
Voilà, c'est lors de la discussion avec Michael Vin de Des Francas, et il m'avait souligné exactement cette même question. On pourrait se dire, voilà, certains pays développés, modernes, on pourrait se dire que tout le monde les signait finalement dans ces pays développés et modernes. Comment ça se fait qu'au bout d'un moment, un pays comme les États-Unis, qui est quand même leader de certaines opinions, ne se lie pas à cette convention ?
Bon, alors, parce que les États-Unis, tout simplement, emprisonnent des enfants quand ils ont fait des grosses bêtises et sont prêts à les condamner à mort. Voilà. Dans certains États, pas tous. Bon, il y a des progrès, il faut le dire, mais ils veulent garder cette liberté de pouvoir condamner des enfants. Alors, quand ils sont condamnés à mort, ils ne sont plus enfants parce que la juridiction est longue, mais les faits pour lesquels on les condamne ont été réalisés tant qu'ils étaient enfants. C'est pour ça qu'ils ont refusé. Voilà.
Très bien, voilà, l'explication de cette non-adhésion à la Convention des droits de l'enfant. Convention internationale des droits de l'enfant.
Voilà, oui. Voilà.
Donc en France, concrètement, comment elle s'applique ? Est-ce qu'elle s'applique bien ? Où on en est finalement dans les droits de l'enfant en France ?
Alors, ça dépend évidemment de quel droit on parle. Bon, je peux dire que sur le plan des bases, un enfant ne meurt pas de faim en France. Voilà. L'enfant a droit à la protection et à l'amour de ses parents. Bon, ça, c'est malheureusement dans tous les pays, quel que soit le niveau socioculturel, des enfants souffrent de maltraitance, de violence parfois, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique. Régulièrement, d'ailleurs, on en entend parler un petit peu aux informations, mais malheureusement, il y en a beaucoup, voilà, qui manquent de cet amour, de cette protection.
Mais alors, ça, c'est presque une question au sein du foyer.
Voilà,
c'est-à-dire qu'une convention internationale ou peu importe le pays qui les signe ou pas, finalement, c'est ce qui se passe dans la maison, là.
Voilà,
oui, mais ça permet de légiférer. Oui. C'est-à-dire que des parents qui seraient maltraitants pourraient être condamnés. C'est-à-dire, là, ça donne un droit important à l'enfant.
Un droit fondamental, finalement.
Un droit fondamental à la sécurité et... Bon, l'amour, c'est autre chose, mais au moins...
Oui, la sécurité, à l'intégrité physique, la sécurité physique.
Voilà, donc ça, c'est la base. Et on peut dire que ce n'est pas lié au milieu socioculturel. Et c'est un phénomène que l'on trouve dans tous les pays du monde, et pas plus dans les pays dits pauvres que dans les pays dits plus favorisés. Voilà, ça, c'est la base. Bon, je vais parler... Alors, malheureusement, en France, en ce moment, il y a une crise économique et sociale. Donc, il y a une montée de la pauvreté dans les familles, ce qui fait que les droits fondamentaux ne sont plus respectés. L'enfant mange à sa faim, mais l'enfant manque des bases. Et puis, donc, il voit l'angoisse des parents qui sont au chômage. Donc, l'enfant est également angoissé. Il est pauvre, il est rejeté des autres. Parfois, à l'école, on le raille. Il est souvent transbahuté de maison en maison, d'hébergement en hébergement. Il y en a de plus en plus. Les parents sont angoissés, donc du coup s'occupent moins bien des enfants. Et je peux dire quand même qu'actuellement, parce que là j'ai des textes qui montrent que cette montée de la pauvreté, on dit qu'actuellement... Il y a 19,6% des moins de 18 ans qui se retrouvent ce qu'on appelle pauvres. Voilà. Et
en
donc,
est-ce que c'est en lien avec le foyer finalement? Parce que quand on parle de moins de 18 ans, c'est ça que vous dites, hein, des moins de 18 ans, ce sont bien au niveau des foyers finalement.
C'est un chiffre
qu'on doit retrouver à peu près en équivalence au niveau des foyers.
Voilà. Alors donc cette pauvreté, ça se retrouve sur le plan de la santé, parce que bon, la sécurité sociale ne couvre pas tous les soins médicaux. Moi, j'ai eu une petite élève qui devait porter des lunettes et la famille ne pouvait pas porter les lunettes parce que la sécurité sociale ne rembourse que très peu. Donc, dans ce cas exceptionnel, le collège s'était cotisé, mais parce que la maman avait osé le dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dont les parents n'osent pas en parler. Et il y a donc un manque de soins médicaux à cause de cette pauvreté.
Alors, je voudrais revenir juste sur un chiffre qui me paraît énorme. Alors, je ne suis pas au fait de toutes les réalités, bien entendu, mais ce chiffre de 19,6% de moins de 18 ans qui seraient en situation de pauvreté, est-ce que vous pourriez déjà définir ce que vous appelez situation de pauvreté?
Alors, ce qu'on appelle...
Et du coup, je trouve que c'est énorme, c'est un enfant sur cinq.
Alors, on appelle celui qui est pauvre, je ne pourrais plus dire exactement les
seuils.
Les seuils, mais c'est quand on n'est pas à 60% du salaire médian, enfin des ressources médianes de la France. Voilà.
C'est le seuil de pauvreté qui est voilà, officiel, c'est ça?
Le seuil de pauvreté, c'est quand on n'a pas 60% du niveau médian. Voilà, en France. Donc, ce qui fait qu'en France, c'est plus élevé que, par exemple, au Portugal ou en Espagne.
Alors, voilà. J'ai un article justement, parce que les joies de l'Internet maintenant nous permet d'avoir les infos en temps réel. Le revenu mensuel du seuil de pauvreté, c'est 814 euros.
Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça.
Alors, j'imagine par membre de parents de la famille.
Bah, oui, par foyer. Voilà, donc...
Attendez, oui, c'est pas la même
60%,
chose.
60%, tu disais... Bah,
en général, ils sont au chômage, malheureusement, oui. Voilà.
Non, et excuse-moi Hélène...
Je n'ai plus exactement les chiffres.
Quand tu... Justement, cette précarité, cette pauvreté qui amène, puisque tu étais sur la santé, je dirais aussi il y a l'insalubrité des logements.
Bah voilà, oui, je voulais en parler.
Et ça aussi, ça pose problème à la santé des enfants.
Bah oui, parce qu'il y a souvent des produits toxiques dans les logements.
L'humidité, les moisissures.
Voilà, voilà. Et donc, ces enfants sont mal logés, souvent sont transbahutés d'hébergement en hébergement parce qu'ils ont été expulsés du logement parce que les parents ne pouvaient plus payer le loyer. Ce qui fait qu'il y a des situations catastrophiques donc qui se retrouvent sur la santé et qui se retrouvent, du coup, dans les résultats scolaires. Dans la mesure où ils sont très mal dans leur peau, bien, ils s'investissent moins, à l'école, et ça entraîne un échec scolaire qui ne fait que aggraver la situation. Et souvent, les autres se moquent un peu de celui qui est pauvre, tout simplement. Il y a une sorte de discrimination, même à l'école. Voilà.
Oui, parce qu'elle va se voir sur le plan vestimentaire.
Voilà. L'hygiène, ce n'est pas toujours... Enfin, pas tous, hein, mais il y en a quand même. Et malheureusement, avec la montée de la crise, ça se manifeste de plus en plus.
Et la nourriture, c'est inégal, puisque un enfant qui est dans un milieu plus favorisé va pouvoir manger des fruits, des légumes. Les parents vont pouvoir acheter ce qui est bon pour l'enfant au niveau de la santé. Là, les préoccupations des parents sont tellement... énorme que les enfants mangent des aliments, ça les nourrit, mais ça ne leur donne pas
tout ce qu'il faut pour grandir correctement et grandir dans de bonnes conditions.
Voilà. Alors, et en bonne santé.
Ce que je veux dire aussi, c'est que...
Et avec de l'énergie.
Voilà. Et du coup, ces enfants-là aussi, sur le plan psychologique, ils ont un sentiment d'insécurité. Parce que même si les parents les protègent un peu, ils sentent bien qu'ils ne sont pas comme il faut. Et ils ont un mal-être et sont souvent angoissés. Il y a des dépressions d'enfants. Hein. Il y a même... Des tentatives de suicide chez des jeunes enfants de 10-12 ans. Et ils deviennent souvent agressifs envers les autres.
C'est très inquiétant, en fait, ce que vous nous dites. Parce après vérification, là, vous êtes en train de nous dire, c'est un enfant sur cinq qui vit dans des conditions sous le seuil de pauvreté. Ces fameux seuils de pauvreté, alors j'ai trouvé les chiffres précis là, de l'année, c'est pour un foyer, donc deux parents, un enfant, c'est 1 759 euros de revenus mensuels. pour un foyer, deux parents, deux enfants, c'est 2052 euros. Ouais. C'est les chiffres de l'année, là. Ça veut dire qu'un enfant sur cinq vit dans ces conditions-là.
Non, moins que ça.
Enfin, moins 19,6, c'est quasiment un enfant sur cinq, des moins de 18.
Un enfant sur cinq, mais qui, le foyer n'a pas cet argent-là.
Oui, qui est en dessous de ce fameux seuil.
C'est 60% de ce seuil,
non ? Médian.
Oui, non, mais c'est justement le calcul du seuil de pauvreté. C'est 60% du niveau de vie médian. Mm-hmm. Voilà. Donc, 60% du niveau de vie médian. C'est pas moi qui les ai faits. Hein. Ils sont en tableau, ils sont bien organisés sur le site du gouvernement, là, très, très directement. Et du coup, c'est quand même un enfant sur cinq qui vit dans ses revenus en dessous. Et ce que vous nous décrivez, là, Hélène Henry, c'est effrayant. C'est effrayant.
Alors, ils ne sont pas tous... il y a des niveaux, évidemment.
Bien entendu.
Ils ne sont pas tous comme ça, mais il y a quand même, en ce moment, une montée de ces enfants extrêmement angoissés qui se sentent rejetés de la société. Voilà. Donc ça, c'est un problème grave qui se développe actuellement. Un parmi d'autres.
Très bien. Eh bien, avant de passer aux autres problèmes, je vous propose une pause musicale et nous revenons juste après.
Oh,
Dengue Fever avec le morceau Intégration issu de l'album Venus on Earth.
Réfléchissez bien. Je vais être obligé de vous envoyer 405 vols. Alors faites un effort. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges.
Voilà, nous revenons sur le plateau avec toujours Hélène Henry de la Ligue des Droits de l'Homme et Daniel Granchet du CFED 27. Juste avant la pause musicale, nous étions en train de parler du seuil de pauvreté et nous allons tout de suite être beaucoup plus clairs que ce que nous devions être juste avant, parce que même au sein de sur la pause musicale, ça a créé du débat. Donc je reviens très précisément sur le seuil de pauvreté en réexpliquant très clairement comment ça se passe. Le seuil de pauvreté est déterminé là sur mes chiffres sous les yeux le 11 octobre 2013, donc très récemment. C'est la limite à partir de laquelle les personnes sont classées comme pauvres ou dans les personnes de classe moyenne ou autre. Voilà. Donc reprenons les chiffres très précisément. Le seuil de pauvreté est calculé comme étant 60% des revenus médians, voilà, de la population pour l'année 2013, ce qui donnait une personne seule, le seuil de pauvreté était à 977 euros. Mais bien entendu, à 977 euros, on est voilà, à la limite. Bien entendu, des gens vivent avec beaucoup moins. Pareil, pour les familles monoparentales avec des enfants de moins de 14 ans, le seuil de pauvreté est déterminé à 1270 euros. Les couples sans enfants à 1456. Les couples avec un enfant de moins de 14 ans, 1759. Et les couples avec deux enfants de moins de 14 ans, 2052. J'ai pas les autres chiffres, mais bon, on voit effectivement que que c'est bien là la limite. Et que bien souvent, quand on parle de pauvreté, c'est des gens qui vivent sous ce fameux seuil de pauvreté et certains bien en dessous de ce fameux seuil, justement.
Voilà. Il y a une grande marge, oui. Oui.
Mais oui, bien entendu, bien entendu. Donc voilà, maintenant que les choses sont clarifiées, ça nous fait une transition quasiment toute faite pour vous questionner sur les avancées. Avez-vous, en tant que Ligue des droits de l'homme ou le CFED également, constaté une avancée dans les droits de l'enfant? Est-ce que les choses, globalement, vont de mieux en mieux?
Alors, si c'est au niveau de la France, je ne peux pas dire que ça aille de mieux en mieux. Bon, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'inégalités. Hein. Il y a une inégalité sur le plan des parents, donc ça existe aussi sur le plan des enfants. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une société de plus en plus répressive et de surveillance. Alors là, je voudrais dire que depuis 2000, on a eu 10 lois sur la justice qui se sont succédées. Alors que dans les années, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une poussée très sociale où tout était basé sur l'éducation des enfants pour rééduquer ceux qui étaient en difficulté ou au bord de la délinquance. Maintenant, c'est tout centré sur la répression et non plus sur l'éducation. Ce qui fait que maintenant, un enfant de 13 ans peut aller en prison. Et qu'il y a ce qu'on appelle le plancher, la récidive, ce qui fait qu'un enfant qu'on prend deux fois à faire une bêtise peut avoir des sanctions assez graves. Hein. Il a la moitié de ce que peut avoir un adulte, ce qui est quand même ahurissant. Ce qui fait que, par exemple, un enfant qui vole un paquet de bonbons dans une grande surface, c'est la première fois, on dit rien. La deuxième fois, c'est une récidive. Donc, il est passible de prison.
Et alors, ça ne se fait pas quand même. En France, ça ne se fait pas quand même.
Pas pour un paquet de bonbons, parce que dans ce cas-là, les magistrats s'y opposent. Mais les magistrats sont débordés et il faut, dans ce cas-là même, que le magistrat fasse un recours contre la loi. Alors, quand c'est un paquet de bonbons, bon, bah, c'est pas grave, mais dans la loi, c'est quand même ainsi. La récidive est très grave, quelle qu'elle soit.
Est-ce qu'on n'est là pas plus face à une loi qui n'est plus adaptée à la réalité? Il existe bien d'autres lois comme ça qui ne sont plus vraiment adaptées à la réalité, qui ne s'appliquent plus. Enfin, peut-être que ça va être ma soirée d'étonnement, hein, vous allez me dire.
C'est tout nouveau, c'est très récent.
Hein. Et
s'applique
du coup.
J'ai plus les dates exactes, mais ça, y en a, c'est de 2007, de 2010. Hein, ce sont des lois très récentes, hein, très très récentes. Et avant, jamais, c'était interdit de mettre un enfant mineur en prison. On pouvait mettre dans des centres de surveillance à partir de 16 ans. Et là, on peut mettre en prison, et c'est toujours répression, répression. Avant, bon, il y avait, je dirais, une police de proximité qui pouvait jouer un rôle très important après des jeunes. Il y avait des matchs de foot avec eux, par exemple, et souvent, ça arrangeait bien dans les milieux difficiles. Ça permettait de lutter contre la délinquance, hein, vraiment. Tandis que là, c'est la répression, ce qui fait que même les policiers eux-mêmes en souffrent parce qu'ils sont haïs par les jeunes adolescents. Et je dirais que ça ne fait que renforcer la délinquance. Et là, toutes ces lois répressives, répression, répression, et non pas éducation. Et là, c'est en opposition complète avec les lois qu'on avait eues dans les années 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, conséquence de toute la résistance qu'il y avait eu contre le nazisme. Voilà.
Alors moi, je pense que ça a été fait pour sanctionner par rapport aux jeunes mineurs, enfin des grands mais des mineurs.
Les 16-18 ans, très
voilà,
clairement, 16, qui posaient problème de délinquance.
Même, on dit même que la délinquance, c'est beaucoup avant, même 13-14 ans, oui, 13 il y a ans. Des jeunes. On a du mal à dire enfants d'ailleurs, parce que quand ils sont au stade de faire quelquefois des actes comme ils font, c'est-à-dire quand même, bon, voler c'est une chose, mais agresser quelqu'un pour le voler, faire mal à l'autre, etc. Donc ces lois-là, c'est de la répression, c'est sûr. Mais c'était en pensant, je pense, qu'il y avait l'idée que peut-être ça stopperait les jeunes, parce qu'avant ils se disaient je suis majeur, c'était l'idée qui avait été répandue.
Oui, tant que j'étais pas majeur, tout allait bien.
Je suis majeur, on peut pas me mettre en prison.
Mineur.
Je suis mineur, donc tant que je suis mineur, je peux faire un peu ce que je veux, je ferai attention quand je serai majeur. C'est l'idée qui avait été véhiculée. Ce qui est vrai, Hélène, moi je trouve regrettable que tout cet argent dépenser pour faire ces nouvelles lois, etc., par rapport aux jeunes, ne soit pas mis dans la prévention, dans l'éducation.
Mais alors, dans ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est, vous disiez, depuis les années 48, c'est ça, il y avait beaucoup de lois autour de l'éducation, de l'accompagnement, de la prévention. Voilà. Finalement, on arrive à une situation où il y a des lois répressives qui arrivent depuis 2000 et quelques, hein, voilà. Est-ce que finalement, c'est pas, regardez aussi, enfin, c'est pas le constat d'une politique éducative qui n'a pas fonctionné. Enfin, là, je me permets, parce que si cette politique éducative fonctionnait bien, on n'aurait peut-être pas constaté du coup une des lois début 2000 qui venaient parer quand même à une inquiétude par rapport à la jeunesse.
Bon, je pense que ce sont des lois, je dirais, un petit peu démagogiques, parce que les gens aiment bien quand on punit. Ça plaît aux gens, et je dirais que c'est un petit peu électoraliste, voilà. Mais c'est pas du tout. Il y a eu des statistiques qui ont été faites sur justement ces fameuses lois répressives. Est-ce que ça limitait la délinquance? Eh bien, on a eu la preuve que non, pas du tout. On a comparé des chiffres et on a vu que ces lois ne faisaient pas. Enfin, c'est pas elles qui faisaient arrêter les méfaits, les bêtises. Il y a autant de bêtises, même si on risque d'être puni, que si on n'est pas, voilà, d'après les enquêtes qui ont été faites par des sociologues.
Et donc finalement, là, la solution est peut-être à trouver ailleurs, et effectivement plus dans le système, voilà, éducatif.
Plus on fait de prévention et qu'on reprend l'éducation, et mieux on lutte contre la délinquance, c'est sûr. Et puis aussi, cette délinquance, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, elle est liée aux mauvaises conditions de vie sociale, des difficultés que, face aux injustices sociales. C'est quand même certain aussi. Voilà. Et donc, je voulais parler encore des choses très négatives, et puis après, on va voir.
Oui, faudrait qu'on devienne un peu plus léger au bout d'un voilà. moment. Hein. C'est ça va être ça. Obligatoire.
Je vais
hein.
parler des choses encore négatives parce qu'on est de plus en plus dans une société de surveillance.
Ah, je vous invite à ce qu'on aborde ça en fin d'émission. Bon, je l'ai prévu et qu'on grille pas tous les sujets tout de suite.
Voilà. D'accord.
Je vous propose tout de suite une pause musicale. Voilà. Éventuellement, les auditeurs qui souhaitent nous contacter pour je ne sais quelle raison, faites comme vous voulez, participez à notre émission. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Une pause musicale et nous retrouvons juste après.
Electric Gem avec le morceau Marmara Streisand, issu de l'album Radiopolis Project.
C'est encore plus balèze que moi avec mon déguisement. Il traverse tout le pays pour une interview. Mais lui, il se met vraiment dans la peau du personnage. C'est du journalisme total.
Voilà, c'est pas tout à fait ce qu'on fait nous, mais dans l'idée. Nous sommes toujours avec Hélène Henry de la Ligue des Droits de l'Homme, Daniel Grancher du CFED 27, et nous avons notre premier rappel. Alors c'est pas vraiment un appel réellement anonyme, c'est Didier du groupe Amnesty sur Évreux. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Didier, de quoi vouliez-vous nous parler ?
Eh bien, je voulais tout d'abord saluer Hélène et Daniel qui sont au micro ce soir et leur dire que c'était une excellente initiative, et j'écoute l'émission depuis tout à l'heure, une excellente initiative qui elle parle du droit des enfants, et que je trouve ça effectivement tout à fait intéressant, et que c'est bien que les gens du CFED, de la LDH, s'investissent aussi de l'outil micro, puisque nous on anime une émission depuis plus de 3 ans maintenant, on fait partie des meubles presque sur Principe Actif.
Un petit peu,
et,
oui c'est vrai.
Et donc donc c'était pour les saluer.
Merci.
Et puis dans un premier temps, et donc bravo pour l'émission, et puis j'espère qu'elle se terminera aussi bien qu'elle a commencé. Et donc aussi pour dire un petit mot, tout à l'heure Hélène a parlé, suite à une question que vous aviez posée, la JC, sur les différences entre Amnesty, la LDH, la Ligue des droits de l'homme et puis le CFED. Juste pour dire qu'on fait évidemment partie de la même grande famille de la défense et de la promotion des droits humains. Donc il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient, je dirais. Bon, chaque organisation ayant bien sûr son histoire, ses origines propres et son histoire propre. En deux mots, Amnesty est né de la révolte d'un avocat britannique en 1961, Peter Benenson, qui avait demandé au public d'agir contre l'arrestation de 3 étudiants portugais. À l'époque, le Portugal était une dictature, et qui avait été arrêté pour avoir porté un toast à la liberté. Voilà comment Amnesty est né. Donc bien sûr que notre, entre guillemets, spécialité depuis 50 ans, c'est d'agir pour la défense des droits des prisonniers d'opinion, principalement. Mais qu'au fil du temps, ce qu'on appelle le mandat d'Amnesty, c'est-à-dire ces formes d'action, se sont beaucoup diversifiées envers les droits économiques et sociaux aussi, envers la violence faite aux femmes, envers les droits des enfants, sachant que, bien sûr, comme toute organisation, nos moyens sont limités, et donc on intervient moins que ce qu'on aimerait faire. On essaye aussi de développer des complémentarités avec la LDH, avec le CFED, aussi bien localement que nationalement, etc. Et dernière chose, petite précision sur Amnesty. Dès la création d'Amnesty, donc il y a 50 ans, la volonté a été faite d'en faire un mouvement international. Donc ça c'était clair, donc d'agir effectivement au niveau du plus grand nombre de pays possible, ce qui fait qu'effectivement les campagnes Amnesty qui sont faites en France ont souvent lieu à des pays, le Mexique, la Russie, la Chine, etc. etc.
Et d'ailleurs un des fondements, c'est même que rarement les groupes d'Amnesty œuvrent dans leur pays.
Oui, ça a été même longtemps d'ailleurs quelque chose qui était impossible à faire. Ça avait été décidé pour protéger les droits des militants d'Amnesty dans certains pays où ça pouvait être très dangereux pour eux d'agir pour les droits humains. Il y a encore malheureusement beaucoup de pays comme ça. L'évolution du mouvement a fait que maintenant il y a possibilité pour les sections qui le veulent d'agir sur son propre pays. C'est le cas pour la section française, Amnesty France, qui agit maintenant principalement sur la violence faite aux femmes depuis 2005 et plus récemment, depuis à peu près 2 ans, sur des problèmes des migrants, des populations roms en France. Voilà. Mais bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas être partout, donc c'est très bien d'être complémentaire avec les amis dans d'autres organisations qui sont tout à fait complémentaires avec ce qu'on représente.
Eh bien, merci de votre intervention, Didier. Et il y a un petit moment, vous étiez passé par le studio, vous aviez croisé Daniel et Hélène. Et a priori, vous voyez régulièrement.
On se connaît bien. Écoutez, bonne émission à tout le monde. Et puis, un petit mot pour finir. On sera demain au Café des Arts de 14h à 18h pour une action qui s'appelle 10 jours pour signer. Voilà, donc tous les auditeurs, voilà. Si vous avez envie de passer par là, ce sera avec plaisir. Voilà.
Bien joué, Didier. C'était au programme pour la clôture de cette émission. Mais vous faites très bien de le mettre entre deux. Merci à vous, Didier.
Bonne émission, à bientôt.
À bientôt, au revoir. Voilà, il est reprécisé justement cette cohérence en fait de travail sur les droits avec chacun sa spécificité. Mm. Nous étions toujours sur le droit des enfants. Je vous propose tout de suite qu'on écoute une petite pastille tournée par Odette Crevette et Mado Bulot. On a une petite intro, parce que j'y tiens, cette petite intro de Mado et de Odette. Et puis nous retrouvons le premier sujet qui parle, on verra bien d'ailleurs.
Bonjour Mado.
Salut Odette, comment tu vas?
Ça va bien et toi?
Nickel.
Le droit des enfants, on va essayer de poser quelques questions alors.
Bah écoute, on va aller se balader au centre-ville. Qu'en penses-tu?
C'est parti.
On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Est-ce vrai pour vous?
Oui.
Oui, ils sont toujours honnêtes, ils réfléchissent pas en tout cas.
Ils réfléchissent pas?
Ils aiment pas les choses.
Souvent, c'est vrai, souvent.
Mmh. Spontané.
Ils sont spontanés, directs, donc il y a des moments où ils ont raison.
Parfois oui, malheureusement.
Pourquoi malheureusement?
Bah, parce que toute vérité n'est pas bonne à entendre. Mmh.
La liberté d'expression des enfants peut-elle faire peur? Faut-il prendre en compte ce que disent les enfants?
Pas tout, une partie oui. Pour ce qui les concerne, ils ont forcément un avis. Après, il y a des choses pour lesquelles, non, leur avis, il sera à prendre avec des pincettes, on va dire. Parce qu'ils ne savent pas forcément de quoi il est question, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants, ils sont pas forcément en âge de comprendre tout, donc non, pas tout.
Non, je ne pense pas quand même, il faut faire attention à tout propos, quoi. Même si c'est un enfant qui est spontané, il y a des moments, il faut quand même se méfier. Il faut aller chercher plus loin.
Il faut prendre, évidemment être attentif et prendre en compte ce qu'ils disent, mais dans le cadre éducatif, les adultes restent à leur place et les enfants doivent être écoutés.
Ça me paraît quand même évident qu'il faut prendre en compte ce que disent les enfants.
Bon, c'est vrai que souvent ils disent la vérité des choses, mais bon, des fois c'est un peu interprété ou voilà, il faut faire attention.
Pensez-vous que les enfants ont trop ou pas assez de droits?
Alors,
vas-y. Bah, t'es la spécialiste.
Alors, on leur a donné le droit à la parole avec le droit des enfants, sauf que dans certaines institutions, donc je vais dire l'éducation nationale, là, et je dirais qu'il y a des moments, voilà, ils ont le droit, mais fermez-la quand même, quoi. Hein?
D'accord.
Faut pas aller trop loin, quoi, hein, parce que ça
le
fait
respect,
pas bien.
Ouais. Par exemple.
Bon, c'est pas toujours à bon escient.
Après, ils ont des droits, mais c'est les parents. Après, pour une grosse partie, c'est les parents qui vont les... qui, on va dire, qui les mettent en pratique. C'est pas vraiment eux. Ils savent pas trop, en fait, en partie.
C'est pareil, c'est le même principe.
Je pense qu'ils n'ont pas assez de droits ou que leurs droits existants ne sont pas assez pris en considération ou pas forcément appliqués.
Lesquels, par exemple?
Par exemple, tout ce qui concerne la maltraitance... Dans les régions déshéritées ou qui connaissent la crise, eh bien, leurs droits ne sont pas mis en œuvre pour X raisons que nous connaissons.
Ça dépend dans quel pays. Chez nous, je pense qu'on est dans la bonne norme. Dans certains pays, ils en ont souvent pas assez. Alors, donc, voilà.
En matière de droits de l'enfant,
toujours à améliorer. Hein. Bah, peut-être dans les écoles, peut-être dans le choix de son avenir personnel.
Je pense qu'on essaye de les écouter de plus en plus. Est-ce qu'ils ont vraiment des droits? Non. On les écoute, c'est déjà bien. Étant donné que c'est des enfants, on peut pas non plus avoir le même droit que les adultes, mais voilà.
Je pense que ça change quand même. Ça change. Par rapport à ce qu'on pourrait comparer, il y a peut-être 50 ans, les enfants ne pouvaient pas parler à table, pas forcément. Maintenant, ça change, on les écoute. Même au niveau des écoles, on crée des instances comme on pourrait retrouver chez des adultes pour leur apprendre tout ce qui est le droit de vote et tout. On essaye de les inclure dans pas mal de choses. C'est en train de changer, mais alors après, répondre concrètement à la question...
Moi, je pense que les enfants, ils n'auront jamais trop de droits. On ne peut pas dire qu'un enfant ait trop de droits. C'est... Voilà, il en a autant qu'un adulte, voire même plus.
Voilà, micro-trottoir signé Odette Crevette et Mado Bulot. Des remarques sur ce que nous venons d'écouter, Hélène, Daniel. Daniel, j'ai vu que vous notiez des petites choses.
Oui, quand il y a une personne qui a dit au micro, qui parlait de la maltraitance, entre autres, qui qui disait qu'il n'y avait pas assez de droits ou qu'ils n'étaient pas respectés. Il parlait de la maltraitance. Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi la société qui provoque de la maltraitance sur des enfants.
Elle n'est pas que physique, quoi, cette maltraitance.
Il faut penser aussi, elle est sociale. C'était notre conversation de tout à l'heure. D'autre part, dans les écoles, que ce soit Hélène et moi, on y a travaillé.
Voilà, vous étiez institutrice,
professeur.
Et professeur, voilà.
Et donc, moi, ça m'a passionné de travailler avec des jeunes enfants et puis après avec des enfants en difficulté scolaire. Et beaucoup d'écoles, moi, je voyais dans beaucoup d'écoles se travailler, alors avec les plus grands. Ils travaillaient justement sur les droits des enfants, la Convention des droits des enfants. Et puis, dans les classes, les enseignants travaillaient sur les droits et les devoirs, c'est-à-dire toujours en parallèle, en pensant, parce qu'il y a aussi l'association La Cause des enfants, qui est sur Évreux aussi, et qui intervenait dans les écoles. Il faut penser que la maltraitance, elle existe, que les abus, l'inceste, les abus sur les enfants existent en France. Il y a des cas dans nos écoles. Et que grâce à ce travail, où l'enfant entend parler de ses droits réellement à l'école, et puis avec des associations comme la Cause des enfants qui interviennent, des enfants ont révélé, moi dans ma carrière, j'ai été témoin de ça. Je veux dire, il y a des enfants qui ont révélé des choses. Mais il y avait aussi les devoirs, parce qu'il y a l'enfant roi, qu'on appelle l'enfant roi, c'est-à-dire l'enfant dont les parents ne peuvent pas dire non, ne disent jamais non. Donc l'enfant, d'ailleurs, se sent en insécurité à l'école, parce que l'école veut lui dire des non, lui donner des limites, et il n'y est pas bien. Et droit et devoir.
Hélène Henry, vous avez une réaction sur le reportage d'Odette et de Mado?
J'ai trouvé que c'était intéressant ce qui était dit, parce qu'ils ont abordé, les personnes ont abordé quand même pas mal d'aspects. Comme elle disait, les droits doivent être respectés. Ils ne le sont pas toujours, comme on vient de le dire. Mais ce que je peux dire, c'est que Daniel parle de droits et devoirs, et je veux dire aussi que dans la mesure où on veut appliquer les droits, cela entraîne automatiquement des devoirs. Voilà. Si on veut que chaque enfant soit respecté, eh bien, il faut que les autres le respectent. Et le fait de respecter quelqu'un, c'est un devoir. Donc, pour que le droit soit respecté, ça entraîne des devoirs. Donc, c'est intimement lié. On ne peut pas les séparer. Ça, je voulais le dire.
J'ai vécu en Angola jusqu'à l'âge de 12 ans. Et pendant toutes ces années, il y a eu la guerre civile. Pendant cette guerre, il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Parce qu'il y a eu un dictateur qui voulait prendre le pouvoir par la force. Mais il a joué dans sa quête. Quand il y a eu la guerre, on était obligés de se cacher dans la jungle, de peur des représailles ou peur d'avoir des rebelles qui viennent nous chercher. Ou peur de se faire tuer. Je sais, quand j'étais petite, ma mère, elle me disait, on se cache sur le lit, on fait une prière en attendant que ça se calme. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup de blessés.
Voilà, extrait d'une vidéo Enfant de sans-papiers, un film de Jean-Jacques Pellerin, estampillé du CFED 27, qui sera projeté prochainement, Daniel.
Justement, dans le cadre de l'action que nous menons, que nous allons mener, Ligue des droits de l'homme, c'est fait, et j'espère d'autres se rallieront à la cause. En fait, par rapport à la xénophobie, à la montée de la xénophobie et du racisme. Donc, ça s'appelle autrement notre action,
vivre
Hélène.
Vivre notre pluralité.
Voilà. Et dans ce cadre-là, en finale de nos actions qui vont avoir lieu en décembre et en janvier, en février, nous préparons l'organisation d'une soirée débat où ce documentaire sera projeté.
Alors là, nous entendions la voix de Carmen, c'est ça?
Oui.
Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué en un premier lieu, et nous allons ensuite parler de l'accueil des enfants étrangers en France. Il y a un truc, moi, qui m'a marqué, c'est qu'une enfant qui part d'Angola à 12 ans, donc elle avait moins de 12 ans quand elle a vécu ces situations en Angola, pour moi, et je sais bien que c'est une réalité pour beaucoup d'enfants à travers le monde, mais le fait d'entendre son témoignage, pour moi, c'est quasi insupportable de se dire qu'une enfant de moins de 12 ans vit tout ça, toutes ses préoccupations, quelle est cette notion de rebelle, de dictateur, qui sont très loin des préoccupations d'enfants. On entendra un peu plus tard qu'elle a aussi d'autres préoccupations qui ne sont pas des préoccupations d'enfants en fin d'échange. Mais moi, ce qui m'a marqué en un premier point, avant qu'on passe vraiment sur la partie accueil des enfants étrangers en France, c'est ces préoccupations qui ne sont pas des préoccupations d'enfants. Voilà, je ne sais pas si ça mène une réaction, mais moi, c'est ce qui m'a marqué.
Ben, en fait, c'est vrai que si on regarde la télévision, si on regarde les infos, des documentaires, on voit bien qu'il y a sur cette terre beaucoup d'enfants qui subissent la guerre. On imagine tous les traumatismes de guerre. Là, ce sont des enfants qui ont vécu la guerre, qui arrivent en France, qui arrivent dans notre pays et qui en parlent après. C'est-à-dire que quelques années après, ils s'expriment sur ce qu'ils ont vécu. Parce qu'en arrivant, en général, ils n'ont qu'une envie, c'est d'oublier. Ils sont plutôt... c'est pas un sujet qu'ils ont envie d'aborder. C'est trop touchant, ça les touche trop.
Mais c'est quelques traumatisant années quand après, même. C'est traumatisant,
un traumatisme. Hein. Donc, on ne parle pas du traumatisme. En général, on essaie de l'éviter. Et donc... oui, quelques années après, elle se souvient et moi, j'ai eu plusieurs fois discuté avec elle où quand elle y repense, maintenant, elle arrive à en parler, mais on voit que dans ses yeux, elle revoit des morts, des blessés, des humains partout, morts autour d'elle si elle passe dans un chemin. Et c'est sûr que c'est traumatisant et qu'après... Arriver en France.
Voilà, le préambule, c'est que ce sont cette réalité qui a amené cet enfant en France. Voilà, c'est important à saisir aussi, c'est que c'est face à ce type de réalité, à un danger imminent, qu'elle est arrivée en France dans le statut, avec le statut de sans-papiers. Voilà. Et du coup, voilà, comment se passe en charge ?
C'est pas le statut de sans-papiers, c'est le statut de demandeur d'asile.
Oui, mais c'est un statut d'attente.
Oui. Mais souvent, bon, les demandeurs d'asile deviennent des sans-papiers puisqu'ils n'ont pas eu la reconnaissance du statut de réfugié. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sans-papiers. Mais au départ, ce sont des demandeurs d'asile.
Alors, ce qui est terrible, parce qu'on a parfois l'image, et les médias racoleurs jouent ce jeu-là avec, quand on parle de sans-papiers, on imagine des gens passés sous des camions, des gens cachés dans des transports de marchandises ou autres. Mais là, clairement, avec un statut de demandeur d'asile, on rentre par l'aéroport.
Ah oui.
C'est ça.
Mais donc, c'est très variable.
Par exemple, ils sont arrivés en avion.
Voilà. Donc, par les voies les plus normales de voyageurs. Donc, c'est-à-dire que d'un moment...
Oui, mais avec des passeports d'emprunt, avec le passeport de quelqu'un d'autre, ou leur passeport, mais qu'il est repris. Enfin, il y a des gens qui organisent quand même la fuite de certaines personnes, qui s'enrichissent sur la fuite. Mais il faut dire quand même que, justement, ce n'est pas toutes les personnes qui subissent la guerre dans leur pays qui arrivent en France. Donc, ceux qui y arrivent là... déjà, ils ont fait un sacré parcours, parce que dans le cas de Carmen, elle était avec sa mère, elle était seule avec sa mère, et cette mère qui emmène sa fille et qui décide de sauver sa peau et celle de sa fille, eh bien, moi, je dis bravo, courage, je veux dire, j'espère qu'on aurait fait pareil, enfin, si on était au même endroit... Et pour beaucoup de parents, c'est aussi ces conditions-là. On imagine toujours que ce sont pour des raisons économiques. Et encore, même des parents qui voient leur enfant mourir de faim et qui ont le courage de partir, de chercher un meilleur ailleurs, pourquoi les condamner, c'est un droit. On devrait avoir le droit de circuler sur la terre librement et je ne vois pas pourquoi ces personnes-là sont regardées de manière très dévalorisante.
Alors juste une petite précision, en 2012, le nombre de demandeurs d'asile, et vous l'affirmerez ou l'infirmerez si vous avez des infos, mais là j'ai sous les yeux, le nombre de demandeurs d'asile en France en 2012, c'était 54 900. Donc c'est pas non plus une invasion d'un continent en guerre.
Par rapport à la population française, voilà, il y a des pays qui accueillent beaucoup plus que la France.
Voilà. Dire qu'en Europe, c'est le pays qui accueille le moins de demandeurs d'asile de l'Europe. Et il faut quand même savoir que l'immigration, enfin, c'est pas tout à fait le thème, mais que l'immigration la plus importante, elle se fait de pays du Sud vers d'autres pays du Sud. Et que les personnes du pays du Sud qui viennent vers nos pays, c'est à peu près un tiers seulement de l'immigration.
C'est important à rappeler, surtout dans les contextes actuels de discussion autour des migrations, des flux migratoires et autres. Enfin, je trouvais important de rappeler ces chiffres qui finalement ne sont pas aussi impressionnants qu'on voudrait bien le faire croire parfois.
Voilà. Donc on parlait à peu près de 54 900 personnes demandeuses d'asile. Et combien arrivent à avoir les papiers à peu près? Est-ce que vous avez des chiffres?
Alors oui. Alors à l'OFPRA, c'est à peu près... nous, on n'en voit pas beaucoup. On dit que c'est 10%, c'est-à-dire 1 sur 10, d'après ce qu'on dit. Mais nous, d'après nos dossiers...
Je dirais même moins que ça.
Ah oui, parce que nous, on voit beaucoup de personnes qui vraiment devraient avoir l'asile et on leur refuse. Parce que ce n'est pas respecté, le droit.
Par exemple, selon la guerre actuelle, là, par exemple...
Bien dans le micro, s'il vous plaît, Daniel.
Oui, pardon. Il y a des personnes... J'essaie de regarder les personnes qui sont à côté de moi.
Mais les auditeurs vous écoutent.
C'est vrai.
Adressez-vous à leurs oreilles.
Et donc, je pense qu'il y a des Syriens qui arrivent en France. Ils vont peut-être avoir une reconnaissance de... le statut de réfugié plus facilement que d'autres. Non, même pas.
Même pas, non,
parce
même
que,
pas.
Parce que ça non. se sait, etc. Par exemple, le Congo, république moi je l'appelle la république non démocratique du Congo. Excusez-moi.
Pire des dictatures.
C'est peut-être pas la pire, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'en est une grave. Il y a beaucoup de Congolais et de Congolaises qui arrivent en France et dans un état...
traumatisé.
De traumatisme, de torture, de violence subie, et sur les femmes, des viols, et n'ont pas le statut de réfugié. Parce que pour avoir le statut de réfugié, il faut quand même réussir à convaincre la Cour. Enfin, moi, franchement, ça fait 8-9 ans que j'accompagne les étrangers... à leur demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile. Et j'avoue que je suis un petit peu écœurée, je vais dire, découragée de voir comment ça se passe, parce que je dirais qu'il y a un facteur chance, et ça ne devrait pas exister. Il y a plusieurs salles, plusieurs jurys, ils ne se ressemblent pas, il y en a qui... Il y a des vieux... Moi, je veux bien, mais je ne suis pas toute jeune, mais la moindre des choses, ce n'est pas de s'endormir devant celui qui raconte son histoire et pourquoi il est là. Il y a des personnes qui posent des questions complètement à côté de... Enfin, j'ai été extrêmement choquée certaines fois. Donc, je veux dire que... C'est pas...
Mais alors ce jury, très, très clairement, ils ont des quotas, j'imagine, il y a un nombre de possibilités d'accueil limité. Et du coup, finalement, peu importe ce qui se passe au sein des auditions ou au sein des rencontres, de toute façon, il y a un chiffre limité de personnes qui obtiendront un titre de séjour.
À la journée,
mais
peut-être.
Il faut dire que quand j'y suis allée, il y avait 16 jurys en même temps. Alors, il y a des jurys qui sont humains. C'est pour ça que je dis qu'il y a une part de loterie qui écoute et qui attribue le droit d'asile quand on le mérite. Il y a d'autres jurys qui sont très durs, qui refusent pratiquement systématiquement tout le monde. Puis il y a des jurys, comme Daniel disait, qui sont je m'en foutiste. Voilà. Donc là, c'est le hasard. Et puis si on passe le matin, on a plus de chances que si on passe le soir. On a plus de chances si on passe au début de l'année que
tout
si on passe en fin d'année. C'est une
même les avocats le savent, ils nous disent « Oh ben là, je vous préviens, ce jury-là, il donne, jamais le statut, c'est absolument anormal. »
C'est pareil, j'ai vu même des avocats qui avaient préféré différer en fait la demande de recours, parce que sachant que ça allait être un jury négatif pour certaines personnes. Donc
ça existe bien.
Pareil pour vous, Odette, vous parlez bien dans le micro, s'il vous plaît.
Ça va comme ça.
J'avais une question. Ces jurys, ils sont, c'est leur métier ou parce qu'on sait qu'on peut être appelé pour une affaire judiciaire quelconque, désigné, on peut pas refuser. Je crois que c'est à peu près ça la législation. On peut être se retrouver jury pour une affaire judiciaire.
Non, là, c'est des personnes et, de métier. Oui.
Ces personnes-là sont
des hauts fonctionnaires.
D'accord. Donc c'était ma question et du coup bon après on pourrait parler longuement j'imagine des critères etc c'est pas forcément
là, c'est le thème de l'enfant là,
oui c'est ce que j'ai dit recentrons
recentrons
assez rapidement les enfants qui en pâtissent voilà.
Mais les enfants qui arrivent avec ces familles il y a des enfants et ils entendent tout ça, ils entendent leurs parents raconter leur histoire, parler de ça. Les enfants sont tout le temps dans l'histoire de leurs parents. Et d'autant que quelquefois ils sont hébergés en grande promiscuité plutôt. Et donc les enfants ne peuvent jamais être dans le monde de l'enfance, mais sont dans le monde des adultes.
Pour illustrer ça, justement, un petit extrait encore du film du CFED.
À la 5e demande, nous avons eu l'accord de la préfecture qui nous dit dans une lettre que nous avons le droit de rester en France, que nous avons un titre de séjour. Et on était super contentes. On était joyeuses, on a fait un peu la fête. Et à la fin, j'ai eu ça. J'ai obtenu le titre de séjour.
Voilà, ça illustrait voilà, nos propos sur les demandes de titre de séjour. Moi, ce qui m'a choqué dans ce nouvel extrait, c'est une fois de plus une préoccupation d'adulte dans la bouche d'une enfant. Voilà. Et plus largement, donc pour recentrer le débat comme nous le disions, le droit des enfants sur l'accueil d'un enfant étranger, voilà, est-il le même ? Ont-ils les mêmes droits finalement ?
Ah non.
En plus, ils sont dans une grande précarité. Ils ne sont pas toujours bien accueillis. Bon,
Les familles deviennent sans papier, parce qu'ils ont eu un rejet de leur demande d'asile, ils font appel au 115, mais quelquefois ce n'est pas possible par le 115, et même souvent, à partir du moment où ils sont sans papier et qu'ils ont un refus de séjour. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'ils sont hébergés chez des compatriotes, donc les personnes s'entassent dans des appartements avec les enfants. La vie est très très compliquée. Alors, quelquefois, les compatriotes, c'est vraiment par compassion pour aider, mais c'est facile pour personne, parce que les compatriotes qui travaillent, qui rentrent, qui ont besoin d'être au calme aussi, en famille, eh bien, ils se sacrifient pour ce qu'ils disent leurs frères, leurs sœurs. Et puis, il y a ceux qui se font exploiter aussi. C'est là aussi qu'on voit de l'exploitation de femmes, d'hommes, qui se retrouvent sans papier pour être hébergés, et de jeunes.
C'est une situation de faiblesse dont certains profitent, quoi qu'il arrive. Voilà. On est dans un truc perpétuel. Avant de reprendre cet échange sur les droits des enfants, je vous propose une nouvelle pause musicale, parce que nous discutons, nous conversons très largement. Un peu de musique nous fera du bien. We'll be right back.
Ibrahim Malouf avec le morceau Imprécis issu de son tout nouvel album qui s'appelle Illusion.
Qu'est-ce que j'apprends, Francky, espèce de malhonnête? Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Et c'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal. On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal.
Voilà, tout est dit dans ces quelques mots. Pour l'argumentation, on écoutera autre chose. En tout cas, voilà, l'émission se déroule et va très vite. On nous disions hors antenne qu'il nous aurait fallu au moins 2 heures pour être plus tranquille, pour pouvoir vraiment échanger et tout aborder. Je vous propose tout de suite, c'est qu'on écoute Alain Vin, qui est vice-président des Franca de l'Eure, et que j'ai questionné cet après-midi autour de la place des enfants dans la société. Quelle était la place des enfants dans la société ?
Je dirais que la question va plus être de savoir comment on place l'enfant, que ce soit au cœur de la famille, au sein de sa scolarité, au sein de son parcours. Quelle position donne-t-on à l'enfant ? Aujourd'hui, même encore dans notre société actuelle, l'enfant est divisé, c'est-à-dire qu'il est toujours le fils ou la fille d'eux, ou l'élève, ou l'enfant fréquentant telle ou telle association. Mais très rarement, l'enfant est pris comme une entité.
Ça se traduit comment ? Vous me parliez il y a un instant du projet Agis pour tes droits. Comment concrètement on travaille sur les droits des enfants en leur direction ?
Alors, il y a plusieurs leviers. Les principaux utilisés, effectivement, nous, vont être des projets. Donc, le concours d'affiches, c'est de permettre, en entrant dans les écoles, en entrant dans les centres de loisirs, de rencontrer les éducateurs en place et de parler avec les enfants de qu'est-ce que sont les droits de l'enfant, quels sont leurs droits, quels sont aussi leurs devoirs, et ensuite de les amener sur une démarche de réflexion qui va permettre la création d'une affiche dans laquelle ils pourront exprimer, eux, comment ils ressentent leurs droits. Mais ça va être la question aussi à travers la situation de handicap où nous travaillons en partenariat avec un certain nombre de personnes sur le territoire, où on est toujours dans le fait de replacer l'enfant au cœur des problématiques. C'est-à-dire qu'on, même si nous avons nos projets, c'est les enfants qui vont interpréter et créer par eux-mêmes.
On aurait l'impression qu'en France, et puis même localement, nous autour d'Évreux, que le droit des enfants finalement est entièrement respecté, qu'il ne pose aucun problème. Nous sommes une société moderne et voilà, qu'il n'y aurait plus à avancer dessus. Est-ce que c'est une illusion ou nous sommes plutôt bien, nous, je dirais en France et plus particulièrement en Normandie ?
Je vais répondre un peu de façon normande.
C'est-à-dire,
oui, c'est effectivement une préoccupation. Maintenant, je vais poser la question en inverse. Est-ce qu'on respecte vraiment le droit des enfants quand on applique des tarifs élevés pour des actions, pour des activités ? Est-ce que tous les enfants ont effectivement le même droit au loisir ? Est-ce que le système scolaire n'est pas construit de façon à ce que tous les enfants n'aient pas le même accès à la réussite scolaire ? Ça va plus être des questionnements comme ça.
Mais sur le droit officiel, finalement, on a très peu de problèmes, mais ce serait plus sur l'application, alors ?
C'est plus sur l'application, voilà. C'est-à-dire que dans notre fonctionnement, on a bien l'idéologie, mais pas toujours la pratique. Et c'est ici, effectivement, l'importance des associations d'éducation populaire de pouvoir relever ce genre d'incohérence et de pouvoir travailler dessus.
Alors, vous, les Franca, votre travail est particulièrement axé sur les droits et l'action vis-à-vis des enfants en France. Mais j'imagine que quand on travaille avec des enfants sur le droit des enfants, naturellement, les questions internationales ressortent, j'imagine. Que vous renvoient les enfants et quel est votre avis, votre vision des droits de l'enfant à travers le monde ?
La vision des enfants est très souvent, surtout les jeunes enfants, assez égocentrés quand même par rapport à leur vie et leur monde. Donc ils ont du mal à prendre conscience de ce qui peut être pratiqué dans d'autres pays. ils ont du mal à comprendre, ils entendent, mais ont du mal à comprendre ce que peut vouloir dire qu'un enfant travaille à l'usine dans d'autres pays, qu'il ne peut pas manger à sa faim, qu'il le droit de jouer, par exemple, qui fait partie des droits de l'enfant, n'existe pas dans tous les pays. Maintenant, ça les interpelle, ça les remet en question, et ça leur permet de réfléchir aussi sur ce que eux ont. Ce qui leur permet aussi de construire leur propre vision du monde.
Et vous, du coup, les Francas, quelle est votre vision justement des droits des enfants de manière internationale, même si votre champ d'action est plutôt national ?
La vision partagée, c'est qu'à travers, nos actions, on aimerait toucher et sensibiliser sur un maximum de territoires, et ne pas forcément se limiter aux barrières. Les Francas sont quand même positionnés sur d'autres pays que la France, assez en marge effectivement, mais on essaie d'agir sur d'autres territoires quand même. La vision, ça va être une réponse un peu facile de dire que effectivement notre position est que les droits de l'enfant sont loin d'être respectés. Comme je vous le disais, c'est déjà difficile en France. Imaginez effectivement ce qu'on peut ressentir quand on parle de pays qui exploitent l'enfance comme un outil.
Je voulais revenir moi sur une notion et de manière peut-être un peu provocatrice, vous dire voilà, vous souleviez le droit de jouer, notamment qui figure dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Est-ce que finalement on n'est pas là sur du détail de la construction de l'enfant quand on parle voilà de le droit de jouer? Est-ce que finalement on n'est pas sur un droit secondaire?
Non, parce que le jeu et le jouet font partie de l'apprentissage de l'enfant. Ce sont des notions essentielles. À travers le jeu, l'enfant apprend les règles qui vont régir une société, par exemple, à travers les lois, à travers comment respecter des règles. C'est aussi apprendre dès la plus jeune enfance et de façon ludique comment apprendre à respecter les lois. Le jeu n'a pas juste le but d'amusement. Les jeux sont par définition éducatifs. Lorsqu'un enfant joue avec n'importe quel type de jouet et commence à rêver et imaginer, il construit son imaginaire. L'imaginaire est fondamental dans la société. Comment voir une nouvelle société, comment voir une société évoluer si on n'a pas l'imaginaire nécessaire pour pouvoir la rêver ou la construire. Le jeu est essentiel dans le développement de l'enfant. C'est plus qu'un droit en réalité. C'est permettre à l'enfant de construire son lendemain.
Donc oui, nous sommes réellement sur un besoin primaire, même, ne disons pas quasi, un droit primaire. Et peut-être nous, à travers le regard d'adulte qui a perdu peut-être une part de rêve ou je sais pas, ou d'envie de jouer, on pourrait considérer ça comme secondaire alors que pas du tout.
C'est très souvent le regard de l'adulte qui est un blocage. Beaucoup d'adultes considèrent les actions des enfants comme insensées ou qu'ils ne comprennent pas. Comme juste le fait de rêver, tout bêtement. Aujourd'hui, on est dans une société où si notre agenda n'est pas complet plusieurs semaines à l'avance, c'est qu'on est inactif. Mais un enfant, c'est pas ça. Un enfant, il a besoin d'inactivité, il a besoin de temps à lui, il a besoin de se construire. Et c'est aujourd'hui même des familles qui vont considérer qu'il faut que à telle heure il fasse telle activité, l'enfant doit faire tel sport à telle heure, et sans compter les temps où l'enfant a des journées parfois plus longues que celles des parents. Et très souvent on oublie que l'enfant là-dedans, quelle place on lui laisse pour se construire, quelle place on lui laisse à lui pour se développer.
Et finalement, voilà, c'est l'enjeu, et on revient au début de notre échange, du coup, c'est la place qu'on va lui laisser pour se construire fera l'adulte de demain.
Exactement. Et si on rêve d'une société la plus démocratique et la plus utopique, entre guillemets, possible, c'est de passer toujours par l'enfant et par la façon dont on va l'aider à se construire.
Michael Vin, vice-président des Francas de l'Eure, qui était cet après-midi à nos micros. Des réactions très rapidement sur les propos de Michael Vin.
Je pensais que c'était intéressant parce qu'effectivement, on s'occupe beaucoup de l'enfant, mais parfois, on ne le laisse peut-être pas assez se construire lui-même. Le loisir, le jeu, bon, ça c'est peut-être éducatif, mais c'est un besoin fondamental. Tous les enfants, et ça je peux le dire, même les enfants très déshérités, jouent. C'est indispensable, c'est un besoin psychologique.
C'est un besoin vital, voilà, je dirais, dans tous les pays du monde. Oui, on voit les enfants jouer avec les cailloux, les... on peut jouer avec tout, mais jouer, l'enfant voilà, joue,
indispensable.
A besoin de jouer.
Je vais me permettre de bousculer un petit peu cette fin d'émission parce que voilà, on aurait eu besoin de beaucoup plus pour discuter. Je voudrais, avant la fin de cette émission, qu'on aborde un peu la notion dans le monde, les enfants dans le monde. Hélène, vous aviez insisté, voilà. Ou en tout cas vous aviez clairement signifié que vous vouliez en parler.
Voilà, oui, parce qu'il y a quand même les problèmes graves dans le monde. On en parle, mais on ne se rend pas compte souvent de l'amplitude du phénomène. Je vais dire que là, l'émission a commencé il y a à peu près 80 minutes, ce qui fait que depuis le début de l'émission, il y a 800 enfants qui sont morts de faim ou de soif. Voilà. Toutes les 6 secondes, je vais compter 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un enfant meurt toutes les 6 secondes de faim ou de soif. Et ça, c'est un scandale parce qu'on pourrait politiquement régler ce problème, mais sur le plan politique, rien n'est fait pour régler cela. Il y a des ONG qui aident, il y a des humanitaires qui essayent de régler ponctuellement le problème, mais c'est un très très grave scandale, je dirais, parce que aucune politique internationale ne fait ce qu'il faut pour lutter contre cela. C'est ahurissant. Enfin, moi, ça me scandalise, voilà. Parce que c'est quand même la base. Bon, en France, on ne mange pas toujours très bien, mais on mange. Dans beaucoup de pays, on mange correctement à peu près. Mais on ne se rend pas compte de ce phénomène et c'est chacun pour soi. Et je pense vraiment qu'il faudrait que mondialement, internationalement, on change de politique. Voilà ce que je voulais dire parce que c'est un phénomène très grave.
C'est très important, voilà. Et puis ça nous parle très concrètement. Vous disiez, toutes les 6 secondes, un enfant meurt de faim ou de soif.
Voilà. C'est en moyenne.
En finalement. Moyenne, bien entendu, hein, bien sûr. Mais et finalement, vous nous dites, face à ça, nous avons la solution, elle n'est juste pas engagée politiquement.
Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Et dans les politiques actuelles qui se mettent en route internationalement, c'est pas du tout cette vision. C'est toujours la marchandisation,
l'économie.
C'est l'argent, c'est l'économie et tous les droits sociaux qui se passent bien après tout ce qui est marchandisation et finance. Voilà, ça c'est quand même un problème qu'il faut soulever parce que ça concerne les enfants. Et je dirais que les enfants, justement, risquent de voir une société bien pire que ce que nous voyons actuellement. Je suis très inquiète pour l'avenir et pour justement tous ces enfants dont nous parlons. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qu'on peut encore aborder là.
Il nous reste 5 minutes.
Je comprends, Hélène, que tu es très touchée aussi. Parce que toi, tu as combien de petits-enfants ?
Bah, j'en ai 6, oui.
Donc,
6
tu penses aussi à l'avenir de tes petits-enfants.
Je suis très inquiète.
Et tu y réfléchis, enfin, tu es inquiète, oui.
Et puis, ce sont de vraies préoccupations. Enfin, il y a l'innocence de l'enfant qui est obligée de nous toucher, nous, adultes, au bout d'un moment, quand il y a des catastrophes humanitaires, même auprès des adultes, là, je parle de guerre civile ou autre, finalement... Sans que les victimes soient responsables, il y a une responsabilité d'adulte qui est mêlée là-dedans. Là, on parle d'enfants où finalement, ils n'ont aucune responsabilité de quoi que ce soit. Ils ont l'innocence de l'âge et ce sont les premières victimes de décisions non prises par les adultes, justement. Je suis tout autant touché et puis je l'ai appris là en préparant cette émission que c'était aussi important. Allez, pêle-mêle, parce qu'il nous reste très peu de temps. Il y a également des choses qui sont imposées à des enfants, et notamment là en tête et en discussion durant la pause musicale, on pensait au mariage forcé, à des pratiques comme l'excision qui sont faites sur des enfants, et ce sont des aberrations dans une société moderne quand même.
Alors, ce que je veux dire, c'est que ces phénomènes de mariage forcé d'enfants, hein, il y en a beaucoup. Ça n'a rien à voir avec les religions, c'est lié à des rites, hein, aussi bien chez des chrétiens que des musulmans. Ce sont des rites. Et je peux vous dire que ces rites, des enfants en France, les subissent. Moi, j'ai, en tant qu'enseignante, quand j'étais en collège, j'ai une petite jeune fille qui avait 14 ans et qui me dit « Madame, on veut me marier à un monsieur de 40 ans que je ne connais pas, qu'est-ce que je peux faire ?» C'est interdit en France, mais c'est très difficile pour un enfant de s'opposer à ses parents. Et je peux vous dire qu'on compte environ, en France, 70 000 jeunes filles qui ont été mariées mineures de force. Voilà. Et ce sont des enfants. Parfois, moi, j'ai vu aussi une fillette, elle est en quatrième aussi. Quand elle est partie en vacances, elle est retournée dans son pays. Elle n'est pas revenue parce qu'elle avait été mariée.
Voilà, voilà. L'occasion, enfin, voilà. J'ai eu l'occasion, moi, de croiser ces situations également oui. scandaleuses où des enfants partaient en vacances dans le pays d'origine de leurs parents et qui se retrouvaient mariés et restaient au pays, finalement.
Voilà. Oui. C'est quand même un phénomène grave. Alors, on en reçoit aussi là, au CEFED. Oui. On a de temps en temps des jeunes filles qui ont été excisées ou des jeunes mères qui ont été excisées et qui ne veulent surtout pas que leur petite fille le soit aussi et donc qui viennent se réfugier en France pour cette raison-là.
Et là, voilà. En ce moment, au CEFED, nous avons des situations de jeunes femmes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps par rapport au mariage forcé. Elles ont 18 ans c'est un mariage organisé par la famille avec des personnes, des hommes qu'elles ne connaissent pas, enfin des amis du père et beaucoup plus âgés. Et de toute façon, ce n'est pas leur choix à elles, quoi, c'est ça.
Bah oui, c'est des mariages forcés.
Voilà.
Ouais, voilà.
C'est pas rapport forcément à l'âge, mais parce qu'il peut y avoir des mariages d'amour entre une jeune et une personne plus âgée. Oui,
mais c'est vrai là, que là, on rentre dans un double enjeu. C'est le mariage des enfants et le mariage forcé. Enfin, là, on est vraiment dans une aberration complète.
Avec des drames et beaucoup de toutes jeunes filles de 12 ans, qui, de 13 ans, de 14 ans, qui meurent dans les couches parce qu'elles peuvent pas... Elles sont des bébés trop jeunes.
Voilà. Dernier point que nous voulions absolument aborder dans cette émission, c'était, et vous aviez insisté, Hélène Henry, sur le fait que voilà, c'était important d'en parler, les nouvelles technologies, la nouvelle société de surveillance, de Big Brother qui guettait nos enfants.
Voilà, alors ça, je voulais en insister beaucoup dessus. On est de plus en plus dans une société de surveillance. Peu à peu, tous nos actes vont être surveillés. Bon, déjà, avec les portables, tout ce qui est inscrit dans les portables peut être surveillé. On a de plus en plus de caméras. Par Internet, tout est connu. Hein. Et ça, il faudrait le dire à tous nos jeunes, à tous nos adolescents, c'est que tout ce qu'ils mettent dans leur portable, tout ce qu'ils mettent sur Internet, sur leur Facebook ou autre, parce que je ne connais pas tout, tout est connu. Et il peut y avoir des conséquences dramatiques par la suite dans leur vie d'adulte, parce qu'on aura vu qu'à tel moment, à 14 ou 15 ans, quand ils étaient adolescents, ils mettaient des petites bêtises sur Facebook, et là, il y aura des répercussions après. On est une société inquiétante, ce sont des progrès techniques, mais on parle d'enfants qui ont peut-être de plus en plus de liberté d'expression, mais en fait, cette liberté d'expression, elle n'est qu'apparente, parce qu'elle est surveillée, et moi, c'est également très inquiétant parce que nous, on défend la liberté d'expression et d'agir parce qu'on est surveillé partout où on va avec les GPS, avec les portables et il y aura de plus en plus de petites puces dans tout ce qu'on achètera. Et donc, on est suivi à la trace. On saura tout ce qu'on achète.
Des parents ont proposé, je ne sais pas où, de pucer leurs enfants pour être certains de savoir où ils sont en permanence.
Voilà.
Suite à de grandes inquiétudes. Non, mais on inquiète avec de grands foulards rouges là, en disant attention au kidnapping et tout ça. Du coup, en disant si on puce mon enfant, on ne pourra plus me le kidnapper.
Et c'est la fin de la liberté. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Voilà.
Voici la société qu'on leur prépare pour
donc,
demain.
Voilà.
Merci à vous, Hélène Henry, de la Ligue des droits de l'homme, d'être venue échanger avec nous et au-delà d'être échangée avec nous, d'avoir participé même à la réalisation de cette émission. Merci à vous, Daniel Granchet, d'être du CEFED, d'être venu partager ce moment également avec nous. Ça faisait longtemps que ça nous pendait au nez, nous, de venir partager un moment radio, Daniel.
Oui, c'est vrai.
Je voulais rappeler
que Hélène est aussi membre du CEFED.
Ah, d'accord.
Donc, mais là, elle parlait au nom de la Ligue des droits de l'homme. Mais elle est aussi au sein d'un membre du CEFED. Voilà.
Nous rappelons les prochains rendez-vous. Vivre la plus... La plus... La, 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 pardon, plus... plus pluralité, excusez-moi. À quel moment est-ce que vous nous donnez rendez-vous? Vous cherchez les infos? Alors, entre deux, je vais donner l'information d'Amnesty International. Didier nous l'avait rappelé tout à l'heure en nous appelant. Je vais la ressortir, hein, c'est caché cette fiche. Il y a trop de fiches là, j'ai tout coupé en deux. Voilà, donc dans le cadre de la campagne mondiale 10 jours pour signer, Amnesty International Évreux donne rendez-vous demain samedi 14 décembre de 14 à 18h au Café des Arts afin d'échanger, discuter et vous proposer de signer sur leur campagne en particulier. Vivre c'est un mot que j'ai, avec lequel j'ai du mal, je vous laisse faire Hélène.
Alors, donc, nous avons prévu une action pour vivre ensemble notre pluralité. Donc, je vais lire rapidement le projet. Face aux graves problèmes sociaux actuels, sensibiliser au risque du repli sur soi, de la peur de l'autre, avec la recherche des boucs émissaires sous l'influence des a priori et préjugés, faire découvrir ce qu'apportent réellement les personnes étrangères sur le plan humain, social, économique, faire réfléchir sur l'indispensable ouverture des frontières face à la mondialisation, prendre conscience que l'accueil fraternel, la solidarité, le partage, le travail en commun participent à la cohésion sociale, contrairement à la rivalité, le rejet, la haine. Alors, je voulais préciser donc samedi 21 et dimanche 22 décembre, au matin, nous allons distribuer des tracts pour expliquer la valeur qu'apportent les personnes étrangères à la société française.
Alors, donc, sur les marchés du centre-ville et de la Madeleine.
Voilà, samedi matin au centre-ville, dimanche matin à la Madeleine, et que nous ferons une marche, mais là c'est au mois de janvier, on a le temps, une marche pour soutenir nos idées. Et là, nous avons le projet du tract, donc en expliquant les préjugés qu'il y a, voilà. Donc on a tout un programme.
Samedi 18 et dimanche 19 aussi sur les marchés. Samedi 25, deuxième marche. Oui, mais samedi 8 et dimanche 9 février.
Ah ben voilà.
Encore sur les marchés, puis une marche, puis... Dans la semaine du 17 au 22 février, il y aura une conférence débat en soirée organisée sur ce thème.
Toutes ces informations, où pouvons-nous les retrouver?
Alors, ben, on va...
Elles seront mises sur le site du CFED 27. Et
il y a un papier et on demande à la presse, on a une heure. On a prévu une rencontre de la presse lundi prochain après-midi à 15h. Donc on espère que la presse va nous informer. Voilà.
Très bien, vous connaissez le système, vous laisserez un message sur notre répondeur, notamment Daniel, vous connaissez bien ce système-là.
Oui.
On a déjà eu l'occasion d'avoir des messages de vous pour nos matinales. Ah bah oui, c'était il y a longtemps effectivement, mais le numéro n'a pas changé. N'a pas changé, Daniel. Donc voilà, nous terminons avec quelques minutes de retard cette émission et c'est un scandale bien entendu. J'espère que nous avons en tout cas pu permettre d'éclairer un petit peu vos lanternes sur les droits des enfants, savoir où nous en étions, savoir quels étaient les outils, les leviers pour ces droits, à savoir comment nos enfants allaient-ils devenir des adultes tranquillement, sans pression, ce qui n'est pas forcément gagné. Hein. En tout cas, nous n'aurons pas répondu à la question « Y aura-t-il des raviolis mardi à la cantine ?» Mais ce n'est pas très grave. Nous nous excusons sur les inserts téléphoniques durant notre émission. Monsieur Abraham Hippopotame avait laissé la ligne décrochée, ce qui permettait pas aux auditeurs de pouvoir nous appeler, voilà, ce qui est plutôt sympa. Nous n'hésiterons pas à vous reproposer encore d'intervenir dans nos émissions, tout en décrochant notre téléphone ou vous donnant un autre numéro.
Merci Louis Titi.
Voilà, justement pour fabriquer cette émission, la concocter, la faire bouillir et la propulser jusque dans vos oreilles, vous avez eu Odette Crevette et Mado Bulot au micro qui a arpenté les rues hébroïciennes. Vous avez eu également Monsieur Abraham Hippopotame de sa réalisation irréprochable et pour vous servir, Louis Titi. Rendez-vous, allez savoir quand, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de rythme. À bientôt.
Je crois que ça va être bon, Mado. Je commence à être fortement congelée.
Ouais, moi j'ai les doigts de pied congelés aussi. C'était pas mal notre micro-trottoir quand même.
Bravo à nous.
Bravo Odette.
Bravo Mado.
Ciao.
Ciao.